Vous le croyez, ce que vous avez chanté, je serai semblable à toi.
Il n'y a que Monsieur de Dieu qui le croit, c'est bien.
Est-ce que vous le croyez? Moi, la première fois que j'ai chanté ce cantique, je ne l'avais pas lu dans la Bible. Et je me suis dit, tiens, on y chante des cantiques, mais c'est grave ce qu'ils chantent. Je ne savais pas que c'était écrit. Je n'avais pas compris que les cantiques spirituels sont tous tirés de la parole de Dieu. Et moi, j'ai été bouleversé quand j'ai chanté ça. Je serai semblable à toi. Ça vous donne une idée un peu de comment vous serez? Est-ce que vous pensez, c'est peut-être mon devoir à moi, de vous aider à le faire? Vous appelez comment est monté Enoch au ciel? Comment est monté Élie au ciel? Sans scaphandre. Mais on va être transformé. Et je voudrais que nous partagions quelques versets, s'il vous plaît. Tout d'abord, dans Romains, au chapitre 3, un verset qui nous fait le fondu enchaîné avec la prédication que nous avons eue la semaine dernière, ou il y a 15 jours, puisque la semaine dernière, j'étais à Saint-Gaudens. Vous avez les salutations de Jérémie Gadroit. L'église était remplie. Je me suis réjoui, vraiment, de voir cette église pleine. Quand il l'a pris, Jérémie, ce n'est pas pour faire des éloges à ce jeune pasteur, mais quand il a pris cette église, elle n'était pas dans le même état. Que Dieu soit béni pour le travail que ce jeune frère a pu faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, nous avons parlé de la fameuse guerre de Gog et Magog qui va venir juste après l'enlèvement. La colère de Dieu va se manifester. Je voudrais enchaîner certaines choses, mais pas parler de la colère cette fois-ci, mais parler de l'espérance. Dans Romains au chapitre 3, au verset 5, il y a une question, c'est Dieu qui la pose au travers de l'apôtre, et je vous demande de bien réfléchir à cette question, car Dieu sait les questions qu'il doit nous poser, croyez-moi. Romains chapitre 3, verset 5, vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais lisez-le avec moi. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Bon, ça c'est une question. L'autre question, Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je répète la question, peut-être vous l'aviez jamais bien lue. Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Tout d'abord, je voudrais vous donner en introduction une pensée importante par rapport aux chrétiens qui se mettent contre Dieu sans s'en rendre compte. Mes frères et sœurs, vous savez que le diable, Jésus l'appelle le voleur, le destructeur, l'égorgeur, l'adversaire, l'accusateur des frères, etc. Le diable est un voleur. Sa spécialité, c'est de nous voler les grâces que le Seigneur a pu nous donner ou nous redonner. Nous sommes dans un monde archi compliqué. La colère de Dieu vient. Dieu va déchaîner sa colère parce que les hommes ne voudront plus de la grâce. Lorsque la colère de Dieu va venir, ça va être terrible. Je vous donne un exemple. Avant de vous parler de la façon dont les chrétiens s'opposent à Dieu. Par exemple, quand vous lisez Apocalypse, à force, vous savez exactement comment les choses vont s'enclencher. À partir du chapitre 4, l'Église est au ciel. Lorsque vous lisez les évangiles, Jésus dit par exemple à l'église, vous aurez des tribulations, d'accord? Vous aurez des tribulations. Il y a des tribulations sur la terre. En ce moment, il y a des tribulations dans une province en Inde. L'église en Algérie, vous avez peut-être reçu le mail cette semaine, retraverse des zones de persécution. Vous-même, vous avez des tribulations. De temps à autre, est-ce que ça vous avez des tribulations? Oui, nous avons des tribulations. Nous avons de l'opposition. Nous avons des combats, nous avons des craintes. Tant que nous serons sur la terre, nous serons sujets à ces combats, à des tribulations. Mais, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre une tribulation avec un petit t, des tribulations que l'on peut subir au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau spirituel, au niveau familial, au niveau conjugal, à tous les niveaux. Mais par exemple, entre les tribulations que je viens de vous exposer et celles d'Apocalypse 3, il faut bien comprendre ces choses. Je sais que c'est à nous, les pasteurs, de vous le faire comprendre. Ça, c'est vrai. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, Le Seigneur parle à une église, c'est une église, la meilleure église de cette liste. C'est une église qui garde la parole. C'est une église qui a le souci de garder sa parole. Vous avez ce souci, vous, de garder la parole? Et regardez la parole que Jésus adresse à cette église, Apocalypse 3, verset 10. C'est pour vous expliquer la différence entre la tribulation que l'église peut traverser et la grande tribulation qui va arriver après l'enlèvement. Apocalypse chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi, en grec il est dit, hors de l'heure de la tentation qui va venir. » Elle va venir où? Sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. La tribulation que vous traversez, les tribulations que nous traversons, sont une chose. La tribulation après l'enlèvement de l'Église est une tribulation qui va affecter toute la terre. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est important, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui pataugent vraiment en lisant l'Apocalypse. Je le comprends. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que si d'un côté il y a la colère de Dieu qui va se déchaîner, d'un autre côté, il y a la glorieuse espérance des chrétiens. On va parler de ça. Dieu fait ce qu'il veut. Il utilise qui il veut. Il sait ce qu'il fait. Vous vous rappelez ce que j'ai dit mardi? J'ai dit mardi que Dieu, on va le lire. Parce que je me fais beaucoup de soucis pour les chrétiens qui sont en train de résister à Dieu. Et vous allez comprendre comment. Avant de parler de l'espérance, je veux vous parler des dangers. D'ailleurs, d'abord dans Actes au chapitre 4, on voit bien que Dieu est souverain. Vous croyez que Dieu est souverain? Vous le chantez, mais est-ce que vous le croyez vraiment? Dans Actes au chapitre 4, vous connaissez le caractère de Hérode. Vous savez comment il est, Hérode? Vous savez comment il a réagi quand il a appris que le sauveur du monde était né? Qu'est-ce qu'il a fait, Hérode, quand il a appris que le sauveur du monde était né? Il a fait tuer tous les enfants en dessous de 2 ans. Voyez un peu le psychopathe que c'était. Et pourtant, regardez ce qui est écrit. Mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Suivez bien ma pensée. Acte chapitre 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, c'était des fous, c'était des malades. Sérieux, hein? Se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu n'a pas pu utiliser un homme intelligent. Eh bien, Dieu a utilisé Hérode et Ponce Pilate tels qu'ils étaient pour faire ce que sa main avait déterminé. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il est souverain. S'il veut utiliser Donald Trump pour faire accélérer les prophéties, mes frères et sœurs, je peux vous dire que Dieu utilise cet homme. Le problème, c'est que les chrétiens... Moi, je discute avec un pasteur dimanche dernier qui m'a dit... tous les chrétiens avec qui je discute sont en train de critiquer le président de la République. Tous. Je me dis, je ne comprends pas. Tout le monde se déchaîne. Mes frères et sœurs, le Seigneur a décidé que nous aurions dans notre nation tel président. Vous croyez que c'est Dieu qui est derrière tout ça?
Si vous saviez.
Si on connaissait les prophéties, on ne serait pas là, croyez-moi. Regardez ce qui se passe lorsqu'on résiste. Parce que Dieu a mis des autorités au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les présidents, en fait? Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Est-ce que vous avez prié pour M. Macron cette semaine? Qui a prié pour M. Macron? Qui a prié pour M. Philippe? Qui a prié pour M. Le Drian? Parce que je pense que les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense, je pense qu'il faudrait prier. Mais regardez, mes frères et sœurs. Il faut comprendre que Dieu utilise les rois comme il veut, les présidents comme il veut. Tous les présidents depuis Nixon ont dit qu'ils transféreraient l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Personne ne l'a fait. Bien sûr que Donald Trump s'évertue de les critiquer parce que lui le fait, mais ce n'était pas le temps. Ça va enclencher, accélérer cette fameuse guerre de Gog et Magog. Et nous ne devons pas critiquer. Regardez ce qui se passe lorsqu'on critique et lorsqu'on devient rebelle. Parce que quand on critique, on devient rebelle, sans s'en rendre compte. Regardez avec moi dans Romains au chapitre 13. C'est important, mes frères et sœurs. Vous voulez être prêts quand Jésus va revenir? Mes frères et sœurs, je vous le répète, le diable est un voleur. Le diable est un égorgeur, le diable est un destructeur. Il veut détruire votre foi, il veut détruire votre espérance glorieuse. Regardez bien, c'est un texte qu'on lit souvent. Regardez bien ce qui se passe lorsqu'on n'accepte pas les autorités. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Moi, je n'ai jamais accepté les lois que François Hollande a votées. Je crois que je n'en ai accepté aucune. Mais j'ai prié pour lui tous les jours. Romains chapitre 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Regardez bien, frères et sœurs. Moi, je peux vous dire, vous allez peut-être comprendre pourquoi certaines de vos prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Mais le diable, il le sait, ça. Est-ce que vous connaissez ? Le diable, il le sait. Que lorsqu'on on fait le jeu des médias, le jeu des journalistes, le jeu des politiciens qui sont tout le temps en train de critiquer, oui, il avait promis pour les retraites, regarde, c'est un idiot. Ça suffit. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple, c'est écrit dans l'Ancien et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Moi, je ne suis pas d'accord avec les politiciens, je ne suis pas d'accord avec leurs lois, ils sont tous corrompus, pour ainsi dire. Mais mes frères et sœurs, Dieu nous dit qu'avant toute chose, il faut prier pour eux. Parce que si on ne se soumet pas, ce n'est pas grave. Est-ce que notre royaume, il est ici-bas ? Est-ce que l'apôtre Pierre a dit qu'on était étrangers sur la terre ? Ce n'est pas notre royaume. Notre royaume, vous savez où il est. En plus, ça va durer un moment. Ça vaut la peine de s'y préparer. Et moi, je suis malheureux quand je vois tous ces chrétiens qui, en fin de compte, ne verront pas leurs prières exaucées parce qu'ils sont devenus des rebelles. Ils aiment Dieu de tout leur cœur et ils sont tout le temps en train. Ils écoutent plus les journalistes que le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous devons prier pour notre nation. Seigneur, sauve dans notre nation. Quand on prie pour M. Macron, pour M. Philippe, et quand on dit « Seigneur, bénis ces hommes », ce n'est pas pour qu'ils soient bénis matériellement, on s'en fiche qu'ils soient bénis matériellement. Ce qu'on veut, c'est que Dieu protège notre pays, que Dieu protège les églises. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ce que je vous dis. Et on pourrait prendre plein d'exemples qui nous montrent combien il y a des hommes qui, à la place de résister au diable, ils résistent à Dieu. Et les chrétiens ne s'en rendent même pas compte. Alors que nous devrions être focalisés sur l'espérance glorieuse, on l'a chanté. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez chanté ? Je serai semblable à toi. Moi, franchement, on peut arrêter le culte, rien qu'avec cette parole. Je serai semblable à toi. Vous vous rappelez comment Jésus il était lorsqu'il est ressuscité des morts ? Comment il est entré dans la chambre haute ? Vous vous rappelez comment il est entré ? Comment il est entré ? Par les murs. Vous serez comme ça. Ça vous va ? On aura un corps complètement transformé. De toute façon, pour partir de la terre dans des corps transformés, aller au ciel sans scaphandre, comme j'ai dit tout à l'heure, laissez-moi vous dire qu'il vaut mieux avoir un corps complètement transformé. Mais vous le croyez, ça ? Alors, on va lire quelques versets, mes frères et sœurs, parce que nous n'avons pas intérêt à nous faire piéger par la mentalité ambiante. Si Dieu a voulu que M. Macron et M. Trump soient au pouvoir, laissez faire, priez pour que les prophéties s'accomplissent. Elles s'accomplissent. Elles sont toutes en train de s'accomplir et les chrétiens, ils sont là en train de râler parce qu'on leur a enlevé 5 euros pour ci. Mes frères et sœurs, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre royaume, il est là-haut. Notre maison, elle est dans le ciel. Il n'y aura pas d'impôts, vous entendez ? Pas d'impôts locaux, pas d'impôts fonciers, rien. Des habits éclatants, purs, pour tous ceux, pour tous les chrétiens qui attendent la glorieuse espérance. Alors, on va lire quelques versets quand même parce que bon, je voudrais vous encourager que vous soyez dans cette glorieuse espérance. Regardez avec moi dans Tite. Comment il nous en est présent ? On l'a chanté. Mais Monsieur Sinarinzi nous l'a fait chanter, mais on va le voir d'une manière différente. Une strophe était tirée de ce verset. Dans Tite, au chapitre 2, il est parlé de l'importance d'exhorter les serviteurs au verset 9. Tite chapitre 2, verset 9, ce sont des textes que vous pouvez noter et relire demain dans votre culte, après-demain. Vous pouvez les relire 20 fois, 50 fois de suite. Ça s'imprégnera dans votre esprit. Heureux l'homme qui médite. La Bible dit, si tu reçois dans ton cœur, tu comprendras. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, qu'il ne faut pas s'opposer aux autorités que Dieu a instituées ? C'est, même si c'est un Hérode, mais Dieu a utilisé Hérode. Vous croyez que Dieu, il est gêné? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Hérode, c'était un malade. Le roi Saül, c'était un malade. Est-ce que Dieu a malgré tout utilisé le roi Saül? Eh bien oui. En plus, il l'a utilisé pour former David, vous voyez. C'était bien. Tite, chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. » Alléluia. « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété. » La piété, c'est tout ce qu'on est en train de voir. Un homme pu... M. Gou nous a rappelé ce matin sa parole. Il faut prier pour les autorités plutôt que de critiquer le président et de le traiter d'idiot. Et je dis idiot pour utiliser un mot qu'on peut utiliser. Parce que quand je vois les chrétiens qui en deviennent vulgaires, si vous êtes... Je vous le dis, parce qu'il faut, que vous alliez au ciel. Si vous êtes vulgaire, si vous utilisez des mots inappropriés par rapport à ceux qui nous gouvernent, vous attirez une condamnation sur vous-même. Vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. Franchement, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis que vos prières, arrêtez de prier parce que vos prières ne seront pas exaucées. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça ne vous plaît pas, peut-être? Ce n'est pas de la politique, c'est du spirituel. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous voulons être prêts quand Jésus va revenir nous chercher. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Verset 13, regardez bien. Pourquoi tout ça? En attendant la bienheureuse espérance. Il n'y a personne qui dit... En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, est-ce que vous attendez la bienheureuse espérance, la glorieuse espérance? Dans certains passages, Pierre dit, nous sommes régénérés pour une espérance vivante. Une espérance vivante, pas une espérance, ben peut-être bien oui, peut-être bien non, je ne sais pas. Une dame disait hier, une dame qui a été baptisée, disait à mon épouse de dire, mais vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose après la mort? Chrétienne. C'est pour vous dire comment, oui, l'ennemi peut tout nous voler. C'est un voleur, il peut tout nous voler. Ce matin, nous avons entendu un don spirituel de quelqu'un qui, du doute, est en train de tomber dans l'incrédulité. C'est un voleur, le diable. Dieu nous parle d'une espérance vivante, d'une espérance glorieuse, d'une bienheureuse espérance. Cette espérance ne trompe pas. Mes frères et sœurs, la dispensation de l'Église va s'achever. Je vous assure, mes frères et sœurs, il ne nous reste pas beaucoup de temps à passer sur cette planète. Bientôt, le Seigneur va nous prendre. Vous entendez? Mais il ne prendra que ceux qui se préparent. Toute l'Église ne sera pas prête. La Bible ne prendra que l'épouse. L'épouse, ce sont les chrétiens qui se préparent, qui vivent dans la sainteté, qui vivent dans l'obéissance, qui vivent dans la bienheureuse espérance. Est-ce que ça vous excite de savoir que Jésus va revenir vous chercher? Est-ce que ça vous convient de participer aux noces de l'agneau? Mes frères et sœurs, nous devrions être accaparés par ces choses. Mais ne les regardez pas, les infos, si c'est pour vous mettre en vrac. Ne les regardez pas. Il y a des gens qui regardent 5 minutes les informations, il faut qu'ils attendent le culte d'après pour être en forme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ne les regardez pas. Ne les regardez plus. Si c'est pour vous décourager, prenez courage. Parce que la tribulation qui va venir, elle va venir sur la terre entière. Quand l'Église sera enlevée, il y aura un tel chaos, vous vous rendez compte, des millions de personnes qui vont disparaître en même temps. Il y aura un tel chaos, c'est écrit, tout ce que je vous dis, je l'ai vérifié, que pour manger normalement un repas par jour, il faudra travailler toute la journée. Je ne sais pas combien c'est le SMIC de la journée, combien c'est un salaire par jour, 30 euros, 50 euros, combien c'est? Bon, eh bien il vous faudra le salaire d'une journée pour prendre un repas ou deux. Ça sera comme ça. Il n'y aura plus la paix sur la terre. Les hommes s'égorgeront les uns les autres. Cette guerre va provoquer des millions de morts. Elle se prépare. Hier, je lisais que les Russes sont en train d'amener ces fameux missiles S-300 qui peuvent atteindre tout Israël. Ils ont mis des milliers d'Iraniens, des 80 000 Iraniens, 30 000 soldats russes. Vous croyez que c'est pour faire du camping au sud du Liban? C'est pour détruire Israël. Cette guerre, elle se prépare. On la voit se préparer. Et cette guerre, nous ne la verrons pas parce que nous sommes épargnés de la colère. Vous entendez, mes frères et sœurs? Je veux que vous le sachiez. Ce que je vous dis, d'ailleurs, comment pourrions-nous parler de bienheureuse espérance si nous devions traverser la tribulation. Mais c'est incohérent, c'est incohérent. Et tous ceux qui disent, tous les pasteurs, les théologiens qui disent que l'Église, je vous le dis parce que c'est important quand même, que l'Église traversera la grande tribulation, c'est parce qu'après après le chapitre 4 où l'Église est au ciel, on voit des chrétiens. Mais les chrétiens, ce sont des vierges folles qui se convertissent pendant la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez? Il y aura des chrétiens qui, eux aussi, se retrouveront au ciel. Ils vont même se retrouver au ciel. Alors, si nous, on était enlevés après eux, ça serait, voyez, ça serait incohérent. L'Église ne traversera pas la colère de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez en être certain. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Dans un Thessalonicien, au chapitre 5, il y a, je ne sais pas combien de textes, des 130 ou 150 textes qui en parlent. De ce jour glorieux, de cette espérance glorieuse, de cette espérance vivante. Nous savons que ce jour vient, quand l'apôtre Paul dit qu'il vient bientôt, quand Jésus dit « je viens bientôt », ça fait 2000 ans, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er. Regardez, c'est magnifique. Vous le croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous le croyez? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs de l'église de Sainte-Agne, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu, lisez-le vraiment solennellement, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu le casque? Il est où? Oui, on le met où le casque? On le met sur la tête. Il faut que tout notre cerveau, notre cœur, mais notre cerveau soit blindé d'espérance, protégé par l'espérance glorieuse, mes frères et sœurs. L'Église ne connaîtra pas la colère de Dieu. Vous vous rappelez que le premier sermon de Jésus, lorsqu'il est entré dans la synagogue de Nazareth, il est entré dans la synagogue, on lui a demandé de faire la lecture dans le rouleau du prophète Ésaïe. Il a lu une prophétie qui le concernait. Vous vous rappelez la prophétie qu'il a lue? Et puis, il lit la prophétie, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Puis commence une phrase, et il la cite qu'à moitié. « Car j'ai été envoyé pour proclamer une année de grâce. » Et il s'arrête. Pourtant, cette phrase se poursuit. Il est dit « pour proclamer une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu ». Pourquoi Jésus a-t-il coupé la phrase en deux? Parce que nous ne sommes concernés que par la grâce. Alléluia! Nous ne sommes concernés que par le salut. Nous sommes concernés par les noces de l'agneau. Nous sommes concernés par l'espérance bienheureuse. Nous ne connaîtrons pas la colère de Dieu. Mais mes frères et sœurs, tout ça c'est écrit. Et les chrétiens, ils devraient être plein d'espérance. Un casque, vous vous rendez compte, c'est des images. Mais mon cerveau, je le protège. Je suis plein d'espérance. Je suis plein d'espérance. Est-ce que vous êtes plein d'espérance? Ça vous convient, ça, de vous retrouver bientôt aux noces de l'agneau dans des vêtements de fin lin, éclatants, purs, avec tous les frères et sœurs qui vous ont précédés, avec qui sait à qui vous pensez? À qui vous pensez? À M. Régnier? À qui vous pensez? À qui vous pensez? À tes parents, Zulima? Vous le croyez, ça, ou c'est des blagues? Vous le croyez que vous allez vous retrouver? Moi, là, je pense à M. Christian, à ma sœur, à ma mère, à Mme Sicre, à Mme Bussière. Vous croyez tout ça, M. Penn, tous ces gens qu'on a eu ici, etc., etc. Je pourrais me citer, mais enfin, quand même, bon, on n'a pas que ça à faire. Mes frères et sœurs, est-ce que vous le croyez qu'on va se réunir avec tous ces frères et sœurs qui sont dans le ciel en bonne santé, qui nous attendent, qu'on va être là-haut, dans les cieux, alors que sur la terre, il y aura la colère pour toutes les vierges folles, pour tous ceux qui ne blindent pas leur cerveau, leur cœur de cette espérance glorieuse. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il va revenir. Il va revenir nous chercher. Il est à la porte et il supplie les chrétiens de rentrer. Monsieur Lafayette avait mettre ce verset, il aurait presque pu mettre ce qui précède. Il dit à des chrétiens, vous savez ce qui précède ce verset ? Je vous en supplie. Il parle à des chrétiens. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit supplierait-il les hommes de se réconcilier avec Dieu ? Vous vous rendez compte, si on demandait à un président qui viendrait, même si vous ne l'aimez pas, un président qui viendrait dans la rue à Toulouse et qui viendrait un clochard, je t'en supplie, sois réconcilié avec moi. On dirait, mais qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est l'importance que ce clochard soit réconcilié avec le président ? Après tout, ce n'est pas important. C'est grave de ne pas être réconcilié avec Dieu. C'est grave de ne pas être réconcilié avec le roi des rois. C'est grave de ne pas prendre ces choses au sérieux. L'enlèvement, beaucoup de gens n'y croient plus. Oui, ils y croient parce que ça fait partie de la doctrine. Il y a combien de chrétiens chaque jour ? Combien de millions de chrétiens chaque jour prient que ton règne vienne ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ils n'y croient pas. On va lire notre texte, mes frères et sœurs. Je voudrais que votre tête soit blindée de ce casque de l'espérance, que vos pensées soient esclaves de cette espérance, que tout votre être vive de cette bienheureuse espérance. Le Seigneur nous a laissé ces choses, quelle grâce, quelle grâce. Vous connaissez un Thessalonicien ? Les chrétiens de Thessalonique étaient des nouveaux convertis quand cette épître leur a été écrite, 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'était des jeunes chrétiens et Jésus n'était pas revenu et ils se posaient des questions par rapport à ceux qui étaient morts. Et l'apôtre Paul, qui avait reçu une révélation, leur explique que son nom soit béni. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. L'ignorance, je pense que l'ennemi utilise l'ignorance. Beaucoup l'ignorance. Et ça, c'est un problème lorsque les chrétiens sont dans l'ignorance. Vous savez, quand un chrétien qui est baptisé depuis 20 ans pose la question, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose après la mort ? Je me demande à quel niveau se situe sa conversion. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Alors regardez bien le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors je vous pose la question, est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour vous et qu'il est ressuscité pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'il faut croire aussi ? Eh bien, regardez la suite. Croyons aussi. Si vous croyez que Jésus est mort et si vous croyez qu'il est ressuscité, vous devez croire aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le Seigneur lui-même. Ça ne vous touche pas ça ? Il n'envoie pas un ange ou des serviteurs. Lui-même, le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il veut être avec nous et nous voulons être avec lui. Mais c'est lui-même. Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons, ça vous va ? Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes frères et sœurs, si nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité, croyons qu'il nous prendra avec lui, croyons qu'il nous a préparé une place dans le ciel. Est-ce que vous réalisez, mes frères et sœurs, que bientôt nous aurons un corps glorifié ? Quand Jésus a été glorifié, ils ont eu peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont dit, ah. Et puis Jésus, on pourrait expliquer que c'était un corps glorifié, mais que c'est un vrai corps. Un corps, il leur a dit, avez-vous quelque chose à manger ? Il y avait du pain, du poisson, rôti. Et Jésus, dans son corps glorifié, a mangé. De ce fait que dans le ciel, vous mangerez, ou si vous ne voulez pas manger, vous ne mangerez pas. Je ne sais rien. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Mais mes frères et sœurs, nous allons avoir un corps glorifié. Ça vous va ? Plus de rhumatisme. Plus de binocles, rien. mes frères et sœurs, un corps glorifié pour l'éternité. Et nous devrions vraiment nous réjouir de cette espérance. Nous devrions arrêter de nous plaindre. C'est écrit, ça, ne vous plaignez pas. C'est écrit, ne vous plaignez pas. Réjouissons-nous en espérance. Bénissons le Seigneur pour sa venue. Il va venir. Il vient, mes frères et sœurs. L'Église va être enlevée. Qui sait si nous terminerons cette année? Qui sait si nous terminerons ce premier semestre? L'Église va être enlevée. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont dans la tête une glorieuse espérance? Est-ce que vous êtes de ceux qui vous réjouissez en espérance? Qui dit, mais Seigneur, tu reviens. Bientôt, on va être aux noces de l'agneau avec tous les bien-aimés et surtout avec toi. Vous le croyez, ça? Vous y croyez à cette nouvelle Jérusalem de 2200 km de haut, de 2200 km de côté, que de l'or? Ça sera notre nouvelle maison. Vous ne trouverez pas le son prix à Century 21, mais elle existe. Mes frères et sœurs, cette immense maison, le Seigneur l'a construite pour vous. Il n'a pas que donné sa vie au calvaire, ce qui est supérieur à ce temple. Mais mes frères et sœurs, il a préparé une place. Il te prépare une place. Il te le dit, que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quand je m'en serai allé, j'irai vous préparer une place. Et quand tout sera prêt, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pas merveilleux? Mes frères et sœurs, nous devrions réaliser cette colère, elle vient. Ça ne vous plaît pas, la colère de Dieu? Moi, franchement, je sais que Dieu est parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé avec la question, qu'est-ce que ça vous fait que Dieu déchaîne sa colère? Mais les gens, ils ne veulent pas de la grâce. Vous avez vu comment les gens y réagiront après l'enlèvement de l'Église? Quand Dieu enverra ses fléaux, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Ils vont tomber à genoux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphèment. On pourrait lire un texte, mais vous savez, mes frères et sœurs, Dieu sait, les gens sont... Tout le monde est en train de blasphémer. Le monde entier est en train de se rebeller contre Dieu. Le monde entier? Le monde entier? Regardez dans l'Apocalypse. Les gens, quand la colère va venir, quand ces malheurs, quand les coupes de la colère vont venir, les gens, ils vont blasphémer. Regardez, on va lire Apocalypse chapitre 16. À partir du verset 4. Lisons-le simplement. Là, ça fait partie des coupes de la colère. Là, c'est vraiment dans la deuxième partie de la grande tribulation où l'Antéchrist régnera sur la terre, où il obligera les hommes à avoir la marque de la bête sur la main ou sur le front. Là, ça va être archi, archi grave. Là, je peux vous dire que ça va être grave. Là, on est dans les coupes de la colère. Apocalypse 16, verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste !» Il parle à Dieu. Hein. « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Vous voyez, nous, les jugements, ça paraît bizarre. Eh bien, ils sont justes. « Car ils ont versé le sang des saints des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » Et j'entendis de l'autel un autre ange qui disait, « Oui, Seigneur !» Vous voyez, la confirmation dans le ciel. « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables. » Et juste. Notre petitesse spirituelle nous empêche de comprendre ces choses. Ne vous traumatisez pas, mais Dieu est juste, intrinsèquement juste. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous comprenez l'enlèvement de l'Église? Parce que les gens, ils seront dans une haine pas possible. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Là, aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit. C'est facile de rentrer dans le royaume de Dieu. Ne me faites pas croire que c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, il demande pardon de tout son cœur parce que le Saint-Esprit a pu le convaincre de péché. C'est facile. Ne jouez pas avec ça. Si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, vous pouvez le faire maintenant, pendant cette prédication. Le sang de Jésus a été versé pour que tous les jours de grâce, les hommes puissent rentrer dans le royaume. Ne vous imaginez pas un instant que quand vous passerez devant Dieu, vous pourrez lui dire, « Oh Seigneur, tu aurais pu me parler plus facilement, j'y comprenais rien. » Il vous dira, « Parce que tu ne voulais pas comprendre. » Il vous dira comme ça, mieux certainement, mais il vous le dira. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas. Vous voyez, les gens, ils ne veulent pas. Ils ont fait un choix, le choix de l'enfer, le choix des ténèbres. Ils admireront le diable. C'est écrit ? Est-ce que c'est écrit qu'ils admireront le diable ? C'est écrit. Regardez au verset 20. Toutes les îles s'enfuirent, toutes les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent, pour être juste, 49,9 kg. Des grêlons de 50 kilos, laissez-moi vous dire qu'il vaudra mieux passer entre. Fais-moi, je ne serai pas là. Même avec un casque, laissez-moi vous dire. Non, mais normalement, on ne sera pas là, non ? Les chrétiens ne seront plus là. La colère de Dieu, elle n'est pas réservée pour les chrétiens. Mais ça fait peur quand même. Tomba du ciel sur les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau est très, très grand. Les gens, ils admireront la bête. Il va sortir, on le verra pas, c'est très difficile à savoir. Mais il va sortir un dictateur mondial qui va faire une alliance. Cette alliance, quand vous regardez bien les infos, vous soupçonnez que un dictateur est en train de germer. Mes frères et sœurs, il faut que ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, parce que toutes ces choses, on ne les verra pas. Nous, nous allons être au ciel. Vous entendez ? Il y a une bienheureuse espérance. Vous y croyez ou c'est virtuel ? Ou vous espérez, comme je disais tout à l'heure, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'espère que c'est vrai. Mes frères et sœurs, le Seigneur est la vérité. Il a dit ces choses. Il ne veut pas que l'Église soit en vrac quand il va revenir. Dieu veut que les chrétiens soient des vainqueurs. À celui qui vaincra. Et celui qui écoute la parole de Dieu et qui en tient compte, il sera vainqueur. Dans l'Apocalypse, les chrétiens, enfin les vierges folles qui se convertiront ne pourront pas être dans la victoire. C'est écrit que le diable va les vaincre. Mais aujourd'hui, vous pouvez être dans la victoire. Vous pouvez être un vainqueur. Ça, vous voulez être un vainqueur ? Ou vous voulez faire partie ? Vous vous rendez compte, ce pasteur qui m'a dit, dans l'église, tout le monde se plaint du président. Il m'a dit ça après la prédication, où j'avais expliqué cette pensée. Et j'ai dit, ces chrétiens, ils ne seront pas exaucés. Bénissez votre pays, bénissez les églises que vous connaissez, bénissez vos frères, bénissez vos sœurs, ne maudissez pas. La Bible dit que si vous maudissez, vous serez maudits. Si vous bénissez, vous serez béni. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Alors bénissez, Seigneur, je bénis ce pays. Seigneur, je bénis ce territoire. Tu m'as placé, je suis né en France, ou tu m'as amené en France. Si vous êtes africain, si vous êtes d'un autre pays, eh bien Dieu vous y a placé. Eh bien bénissez Dieu. Bénissez Dieu, bénissez votre pays. Mes frères et sœurs, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Nous sommes appelés à bénir. Mes frères et sœurs, moi je suis malheureux quand je vois des chrétiens qui sont tout le temps en train de râler. Je ne comprends pas ça. Une bienheureuse espérance. Voilà ce que nous attendons. Si je vous disais la date, vous aimeriez ? Mais je ne l'ai pas. Vous aimeriez la voir ? Mais en tous les cas, une chose est sûre. Personne ne peut la voir. Mais une chose est sûre, c'est qu'il vient très, très, très bientôt. Heureux, heureuses les vierges sages. Heureux ceux qui alimentent leurs lampes. Heureux ceux qui ont leur tête, leur cerveau couvert par l'espérance de la gloire. Heureux ceux qui ont le cœur rempli d'une espérance vivante. C'est ça le plan de Dieu. Que votre espérance, elle soit glorieuse. Que votre espérance, elle soit vivante. Parce qu'en plus, c'est pour l'éternité. Je ne sais pas si vous voyez. Ça serait pour 3 ou 4 milliards d'années. Bon, tu dirais, ça va terminer. C'est pour l'éternité que le nom du Seigneur soit béni. Alors mes frères et sœurs, faites-vous du bien. Dans une église, on devrait quoi faire ? S'exhorter les uns les autres. Le jour approche, ce n'est pas le moment de tomber dans la déprime. Ce n'est pas le moment de se décourager. Prenez courage. Oui, vous aurez des tribulations. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à côté de celle qui va venir, laissez-moi vous dire, sans vouloir minimiser, parce que je sais que certains frères dans certains pays traversent vraiment la tribulation, mais quand elle va toucher toute la terre, laissez-moi vous dire que ça va être notre paire de manches. Alors nous restons dans la paix. Jésus l'a dit, je vous donne ma paix. à Golgotha, il n'a pas seulement donné que le salut par son sang, la Bible dit que le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Donc si vous avez, normalement il y a tout un package, il y a tout un truc de bénédiction et de grâce qu'il faut prendre au calvaire. Seigneur, je prends la paix, tu me donnes la paix, je la prends. Je te demande pardon d'avoir laissé le diable me trimballer comme un gosse, me malmener par le bout du nez, Seigneur, pour me faire tomber dans le piège des païens qui sont tout le temps en train de se plaindre et de critiquer. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, si vous êtes un enfant de Dieu, que votre retraite, elle monte ou qu'elle baisse, Dieu pourvoira. Vous entendez, mes frères et sœurs? Le Seigneur a promis de bénir les fidèles. Le Seigneur a promis de bénir ses enfants. C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous croyez ce qui est écrit? Mes frères et sœurs, je termine avec ce verset que j'ai lu. Nous, nous attendons la bienheureuse espérance. Gloire à Dieu. On loue le Seigneur, on le remercie, on l'aide, on lui demande de l'aide. Je ne sais pas dans quel état est votre cœur. Je ne sais pas dans quel état est votre cerveau. Je ne sais pas dans quel état est votre âme. Franchement, si vous êtes tout le temps en train de râler, au cas où il y en aurait un, au cas où il y en aurait un, si vous êtes en train toujours de vous plaindre, quand vous ouvrez les informations, et il avait promis ça, et il ne l'a pas fait, et après vous parlez en langue, moi j'ai quand même des soucis avec ça. Venez me trouver quand même. Si vous faites partie des gens qui parlent en langue et qui sont tout le temps en train de critiquer parce que, je ne sais pas moi, le caviar a augmenté. Mes frères et sœurs, dans quel état est ton âme? Dans quel état est ton cœur? Est-ce que ton cerveau est béni par cette espérance glorieuse? Est-ce que ton cœur est rempli d'espérance vivante? Si tu te plains, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, je te parle, je pense, de la part du Seigneur. Si tout le temps tu te plains, demande pardon à Dieu. Et remercie Dieu pour tout. La Bible dit, rendez continuellement grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur savait très bien que nos pensées peuvent être complètement en vrac à cause des mauvaises informations. C'est pour ça qu'il dit « rendez continuellement grâce ». Vous entendez mes frères et sœurs? On prie, mais soyez sérieux. Ne soyez pas dessous, dans la rue, allez, il y a un bouchon, j'en ai marre. Mais bénissez Dieu d'être dans une grande ville. Ou alors vous avez qu'à déménager dans un petit village dans l'Aveyron, où il y a 4 voitures. Mais c'est ça, mais faites-le. Si vous êtes dans une grande ville, eh bien, c'est normal qu'il y ait des voitures. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu nous as laissé ta parole dans notre langue. Tu nous as donné des yeux, des oreilles, un cerveau, un cœur, une âme, un esprit. Tu nous as tout annoncé à l'avance pour que nous conservions jusqu'à la fin cette glorieuse espérance. Ou bientôt, transformés, suivant de près tous les bien-aimés qui nous ont précédés dans la tombe, nous te verrons et nous serons toujours avec toi. Comment ne pas te bénir? Seigneur, je te demande d'aider tous ceux qui sont en difficulté. Je te demande d'aider tous ceux qui se sont fait piéger par l'ennemi, de les délivrer de cette mentalité, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de râler, de se plaindre contre le chef de l'État, contre les ministres, contre les lois impies qui sont votées, Seigneur, délivre-les de cette mentalité, diabolique qui entraîne les gens à devenir des vierges folles. Nous voulons être des vierges sages. Nous voulons être ces femmes, ces hommes remplis de ta présence. Le cerveau rempli d'espérance. Le cerveau protégé par ton espérance. Le cœur protégé par ton espérance. L'âme envahie d'espérance. Notre Père, merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, je ne sais pas comment nous te l'exprimerons dans le ciel, mais vraiment merci pour le calvaire. Et merci pour ta parole. Du fond du cœur, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni.